Chers amis, Hachem Alechem Tiahio, Leorechem, Tovim, Veshanim, Naimi. Nous sommes au début de Parashat Vayirae. Ezenu Beshem Adonai, Osei, Shamaim, Baaretz. Donc la Parashat Vayirae est en fait la continuité de la fin de la Parasha de Shemot. Alors qu'est-ce qu'il est dit au début de la Parasha? Vaydaber Elohim El Moshe. L'Éternel Elohim, qui est la tribu de rigueur, on parle à Moshe, s'adresse à Moshe avec rigueur. Le mot Vaïdaber, nous disent Chachamim, indique la dureté de la parole. Et que lui dit-il? Vayomer Elav, il lui dit, Ani Hashem. Et lui, Vayomer, là tout d'un coup, il y a encore un nouveau dibour, une nouvelle parole. Mais là, le pasouk emploie le mot Vayomer qui indique qu'il lui parle gentiment, avec douceur. Vayomer Elav, il lui dit, je suis l'Éternel. Ani Hashem, Yudke Vavke Midat Rachamim. Rashi indique que le début de la paracha, le début du verset, il s'adresse à Moshe. Il s'adresse à Moshe avec rigueur, avec dureté. Pourquoi? Parce que Moshe s'est permis de parler durement vis-à-vis de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est dit plus haut? Il dit, comment tu as pu dire? Il a dit, quand Moshe va, s'adresse à Pharaon aggrave la situation des Bnei Israël. C'est-à-dire, il exige qu'ils produisent la même quantité de briques sans leur fournir la paille. Donc, la situation s'est aggravée. Donc, les Bnei Israël sont, l'oppression s'est tout d'un coup accélérée et est devenue plus dure. Et en sortant de chez Pharaon, Moshe et Aaron rencontrent les Chotrim, ceux qui sont les Bnei Israël qui sont responsables de la production. Et eux, ce sont eux qui sont frappés, qui sont acculés. Donc la responsabilité, les Égyptiens reportent sur eux la responsabilité du fait qu'ils n'arrivent pas à produire. Et eux s'en plaignent. Ils disent, vous êtes venus de votre propre chef, vous êtes venus au nom de Dieu, la situation aurait dû s'améliorer. Et là, tout d'un coup, ça s'est aggravé. Donc, peut-être que vous êtes venu de votre propre chef, que Dieu juge. Et ce reproche, Moshe ne le supporte pas. Alors Moshe s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Et il lui dit, voyons, à la fin de la paracha précédente, il s'adresse à Dieu, il lui dit, Lama areotal amazé. Il dit, pourquoi as-tu fait du mal? Vayashov Moshe El Adonai Vayoma. Donc, Moshe s'est adressé et retourné vers Dieu et il lui dit, Seigneur, Lama Ariota Lamazé, Lamazé Shel Artani, pourquoi tu as fait du mal? Donc, ici, le mal, je veux dire, ça signifie que ça s'est aggravé. Et pourquoi donc tu m'as envoyé? On met Asbati El Paro. Donc depuis que je suis venu parler, ça s'est aggravé, et tu n'as pas pour autant sauvé ton peuple. Et là, Dieu lui répond, « Vayomer Hashem el Moshe, atatire, maintenant, vayomer. » Donc ici, a priori, il lui répond immédiatement. Que lui répond-il? Il dit, « Maintenant, tu verras gentiment. Vayomer Hashem el Moshe. » Il n'y a pas marqué avec rigueur ici. « Atatire, maintenant, tu vas voir ce que je ferai à Pharaon avec une main forte. Il va les renvoyer. Kibyan Hazaka Ishalehem, ou bien Hazaka Igarshem Erzo. Avec une main forte, il va les renvoyer. Et avec une main forte, il va les chasser de son pays. C'est-à-dire que la réponse a été donnée. Et là, il y a une fin. C'est une fin, la fin de la paracha. Donc la discussion est finie. Et là, après, va y d'abord une nouvelle discussion. Un nouvel entretien entre Dieu et Moshe. Et à ce sujet, il est dit. Donc c'est à ce sujet que Rachid dit, il lui répond, mais il lui a déjà répondu à la question précédente. Et ça, cette question-là, elle est a priori difficile. Rachid est certainement un peu difficile. Mais ce que dit Rachid est quelque part un peu mentionné d'une autre manière dans le Tanhuma, qui dit que la première partie du pasuk Vaydaber Elohim El Moshe indique que là il s'adresse avec rigueur à Moshe, que Moshe ne verra pas l'entrée ne participera pas à la conquête de la terre d'Israël. Voyomer El Avaneh Hashem qu'il va libérer Israël. Donc on dirait qu'il y a deux discussions. Il s'adresse de deux manières à Moshe, une pour lui personnellement, et la deuxième qui concerne l'âme Israël. Donc on a fait ici une coupure dans la discussion. C'est ce que semble indiquer le Tanhuma. Cependant, il nous faut comprendre véritablement le sens de toute cette discussion. Alors nous avons... Il y a de comment se produit la délivrance. C'est ce que nous devons comprendre. Comment se produit la délivrance? Qu'est-ce qui est le sens de la délivrance? Il y a deux conduites. Il y a dans le Akadosh Baruch Hu conduit le monde de deux manières parallèles de conduction, de direction de ce monde. La Hashgacha de Dieu sur sa création, elle se fait de deux manières. Et elle se fait d'une manière globale. C'est ce qu'on appelle Hashgacha Klalit. La Hashgacha Klalit est décrétée dès le début de la création, quand la Torah raconte le récit de la création. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Et durant tout le récit de la création, l'attribut Elohim apparaît 32 fois. Donc ce sont les 32 voix de la sagesse, de la chokhma, c'est Bereshit indique le concept du savoir, de l'intelligence, de la connaissance qui se met en marche pour effectuer la création. La création ne peut se faire qu'avec savoir, la sagesse. Et cette sagesse-là a 32 voix. Lev netivot chokhma. 32 voix de sagesse. Et c'est Elohim qui agit. Donc c'est la nature. Le mot Elohim, 80 valeurs numériques, 86, indique la rigueur. En quoi c'est la rigueur? Parce que c'est la matière, c'est la nature, de manière naturelle. Donc la nature a des règles fixées, des lois, des réalités physiques que l'on ne peut pas, desquelles on ne peut pas s'échapper. Donc nous sommes soumis à ces règles. Ça c'est la conduite. Pour réussir, cette conduite-là, elle est la conduite naturelle. Ça, c'est la manière que HaKadosh Baruch Hu a de gérer le monde. Tout est fixé dans la nature. D'une autre manière, nous disons que le mazal est fixé, la destinée des individus et des peuples est fixée dans les astres. Les astres étant le concept de la nature, de tout ce qui est sous les astres. Et maîtrisé dans les astres. Donc l'influence des astres sur... Ça c'est la fixation des choses au début de la création de manière naturelle. Il y a une autre... Il y a... Donc dans cette dimension-là, alors Abraham ne peut avoir d'enfant. Donc c'est ce que Kadosh Baruch Hu promet lors du Brit Ben Abetarim à Abraham. Et Abraham lui dit... comment tu me promets quelque chose qui ne peut pas se réaliser? Il dit, comment sais-tu que ça ne peut pas se réaliser? Il dit, j'ai vu dans les étoiles que je n'aurai pas d'enfant. Alors que je vois qu'on lui dit, oui, sous les étoiles, tu n'as pas d'enfant. Alors il lui fait sortir, donc il a sorti de sous l'influence des étoiles, et il a placé au-dessus. Il lui dit, abetna shamaima, observe les cieux. Donc, abet, ça veut dire qu'on regarde du haut vers le bas. Donc, il a placé au-dessus, à l'extérieur, mais au-dessus. Et lui dit, observe, jette ton regard sur les étoiles, si tu arrives à les compter, ainsi sera ta descendance. Ce qui signifie qu'à partir de là, Avraham Avinu est sorti du concept de la direction qui est apparu au début de la création. C'est-à-dire qu'il est sorti du concept de la anagat ateva, la conduite naturelle, normale, global du monde. Et avec lui va apparaître une nouvelle conduite, celle qui est au-dessus. Alors, c'est comme cela que Avraham Avinu aura des enfants, c'est grâce à cela, et que les Bnei Israël vont prospérer. Donc, il y a une nouvelle. Et quand est-ce que cette conduite va apparaître? Elle va apparaître de manière puissante, totale et éclatante lors de la sortie d'Égypte. Ça va démarrer ici, Parashat Vaera. Et comment elle se manifeste? Par le Shem Avaya Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Alors c'est ça ce qu'il est dit ici. Moshe Rabbeinu, lors de la vision du buisson ardent, il dit à Kadosh Baruch Hu, donc il voit le buisson, il voit la vision. Qu'est-ce que voit-il? Il voit le feu qui dévore le buisson. Mais le buisson ne se consume pas. Ça veut dire qu'il est brûlé, mais il ne se consume pas. Et à Kadosh Baruch Hu lui dit, tu vas, il faut aller libérer en Israël. Et là, Moshe a une question. Il dit, si je dois libérer Israël, donc le feu doit, donc la vision, et le feu, c'est la galoute, l'oppression, la souffrance exercée par les Égyptiens sur Israël, et le buisson, c'est Israël. Donc il doit voir que le feu doit s'apaiser, soit s'affaiblir jusqu'à s'éteindre, si la délivrance doit se produire. Et il voit que le feu est aussi virulent, aussi fort qu'au début. Certes, le buisson ne se consume pas, mais il brûle. Donc c'est-à-dire il y a des souffrances. Alors il dit, pourquoi c'est comme ça? Alors, Akash Borro lui dit, le temps d'arriver, donc il lui fait comprendre comment ça se manifeste. Moshe veut comprendre la vision, il lui dit, comment, quel nom? S'il me demande quel est ton nom, que vais-je leur dire? Alors, Akash Borro lui dit, Eye Asheriye, je suis celui qui sera. Je suis avec eux là, comme Rashi dit, et je serai avec eux ailleurs, dans d'autres galouyot. Donc, ça, c'est la réponse à l'interrogation de Moshe. Alors, donc, c'est-à-dire que, certes, il y a un galout qui va cesser, mais ce galout-là, il est reporté. C'est-à-dire le manque, les Bnei Israël, nous devons savoir que les Bnei Israël devaient rester en Égypte 430 ans. 430 ans, et non seulement rester en Égypte 430 ans, mais souffrir l'oppression totale qui a débuté, c'est-à-dire que l'âme Israël a été exilée, a été maltraité, et après il a été oppressé de manière absolue, totale, insupportable pendant 86 ans. Et l'oppression a commencé à durer 117 ans. Et l'exil a duré 210 ans. Donc il y a plusieurs étapes. Mais en fait, nous disent les Chachamim, que les Bnei Israël auraient dû oppresser de manière totale, non pas 86 ans, mais 430 ans, ce qui fait 5 fois 86. 86 correspondant au Shem Elokim. Elokim qui est la rigueur, c'est l'application de la rigueur. Alors nous voyons ça au début dans Parashat Shemot, quand il est dit que les Bnei Israël ont prié, ont souffert, ont crié vers Dieu. Alors, il est mentionné là, cinq fois le Shem Elohim. Comme il est dit dans le verset, juste après que Moshe est venu au monde, il est dit là, de la manière suivante. Alors, il est dit dans Parashat Shemot, au chapitre 2, au verset 23, Vayi bayamim bayamot melech mitzrayim, vayanhu ben Israël min ha'avoda. Donc, là, c'est le début de la souffrance. La Torah raconte la souffrance d'Israël depuis la mort de Pharaon, c'est-à-dire qu'il est devenu lépreux, ça s'est aggravé. Alors, ils ont souffert, ils ont soufflé. Ils ont crié, Vata'al Shavatam, Ela Elohim in Avoda. Marquez ici que leur plainte, leur cri est monté vers Elohim. Ils travaillaient, ils criaient. Une fois Elohim. Et là, il est dit, juste après, Vaishma Elohim et Na'akatam. Elohim a entendu leur cri. Vaiskor Elohim et Berito. Et Elohim a ses souvenirs de son alliance avec Abraham, Isaac et Yaakov. Après, il est dit, donc c'est trois fois. Vayar Elohim et Bnei Israël. Elohim a vu les enfants d'Israël, Vayeda Elohim, Elohim a su. Donc il y a marqué ici cinq fois l'attribut de Elohim, ce qui indique que dans cette souffrance-là que les Bnei Israël ont souffert, il est mentionné à cinq reprises l'attribut de Elohim. Ça signifie que cinq fois Elohim, ça fait 430. Et les Bnei Israël ne vont pas être en servitude 430 ans. Et quel est le sens de ce Elohim? C'est la rigueur absolue, c'est les règles de la nature qui s'abattent sur Israël. Parce que, pourquoi? Parce que les Bnei, donc la Hashgacha pratique particulière qui devrait s'appliquer à la descendance de Abraham, telle que nous l'avons décrite par le fait qu'Abraham a été sorti dessous les astres, dessous la voûte céleste, ne s'est pas a priori appliquée. C'est le Shem Elohim qui s'applique. Donc toute la procédure, le processus de libération constitue en fait en une transformation de la conduite de cinq fois Elohim en cinq fois Avaya. C'est ce que normalement nous devons, c'est à cela normalement que nous devons assister. Et là, nous allons voir que c'est pour cela que Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, quel est ton nom? C'est-à-dire, quelle conduite tu leur appliques? Et juste avant qu'il s'en aille, il lui ajoute, et il lui dévoile le Shem Havaya. Alors Moshe demande, Vayomer, alors Moshe, il dit, il demande, Vayomer Moshe il a Elohim. Donc Moshe s'adresse à Elohim. Il y a un Ochiba et le Ben Israël. Voilà, je vais m'adresser au Ben Israël. Et je leur dis, je vais leur dire, Elohim Avotechem Shilahani, c'est le Dieu de vos pères qui m'a envoyé. Alors qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils disent, Machemo, ils vont me demander quel est son nom. Ma Omar Alehem, qu'est-ce que je vais pouvoir leur répondre? Qu'est-ce que ça signifie, cette question? Ils vont me demander quel est son nom. Le nom ici signifie avec quel attribut, avec quelle conduite tu viens. Est-ce que Akadosh Baruch Hu t'a confié la conduite de la Géoula ou pas? Est-ce que nous sommes toujours sous la domination de l'Égypte? C'est-à-dire que c'est la tribu de Elohim qui s'applique à nous? Ou bien, c'est il y a autre, une autre anaga, une autre conduite qui va s'appliquer. Alors c'est ça le nom. Le nom, ça indique comment Akadosh Baruch Hu agit avec nous. Alors, voyons Mère Elohim et le Moshe. On voit qu'à chaque fois, c'est le Shem Elohim qui est employé. Ayé Acheré. Le mot Ayé, c'est le concept de l'existence, de la vie, le concept de la vie qui est projeté, qui est projeté dans le futur. C'est la vie qui, non pas au présent, mais la vie dans le futur. C'est-à-dire que la vie qui se poursuit. Quand on se lève le matin, on se lève parce qu'on a une journée devant nous. Donc c'est le Heyé. Je suis et celui qui sera. Donc c'est ce que le Akadosh Baruch Hu lui dit. Heyé Acheré. Alors ça sous-entend, comme nous l'avons déjà indiqué, que la galoute, elle va se poursuivre ailleurs. Donc les serfs, vous sortez d'Égypte en avance. Mais pour autant, vous irez dans d'autres galouillottes. Alors Moshe lui dit, que ça veut dire ça? Tu vas leur dire aussi qu'ils sortent là. Et... Alors il dit, Dayash Tzara Beshad. Alors il dit, Eye, Shelachani. Alors dis-leur, Eye. Dans le futur. Shelachani Alechem. Voyomerod Elohim El Moshe. Et là, Elohim ajoute et dit à Moshe, Kot Omar El Bene Israël. Ainsi tu diras au Bene Israël, Adonai Elohe Avotechem. L'Éternel, donc ici, il lui dévoile, il lui transmet le Shem Havaya Baruch Hu, Elohe Avraham, Avotechem, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, Shelachani Alechem, c'est lui qui m'envoie. Zeshemi Le'ola, Zezichi Le'dor, là, il lui dévoile le Shem Havaya. C'est avec le Shem Havaya Baruch Hu qu'il va s'adresser et qu'il va délivrer l'âme Israël. Alors, il lui dit, Zeshemi Le'ola, c'est mon nom. Pour toujours, ça veut dire Ne'elam. Le nom de Dieu, Yudke Vavke, il n'est pas prononcé. Il est insaisissable, il se dérobe. Le'olam, Milachon, pour toujours, certes, mais ça signifie aussi, ça indique aussi que c'est un nom qui se dérobe, qui est Ne'elam, qui est caché, qui est voilé. Vezezichi, alors s'il est caché, comment peut-on le prononcer? Alors Vezezichi, il est d'ordre. Et voici comment on va le. Zichi, ça indique comment on doit le prononcer. Alors Gemara, elle dit. Lo keshem shani nirta vani nikra. Traduction de ce verset. Je suis écrit, mon nom s'écrit Yod Kevavke. Mais vous ne le prononcez pas Yod Kevavke. Vous le prononcez Ado, plus loin Nai. Alef Dalet Nun Yod. Donc ici, il lui transmet justement ce Shem Havaya Baroucho qui est exactement la conduite que Akadosh Baroucho a décrété sur Abraham en le sortant de sous la voûte céleste. Et c'est ce Shem-là qui produit la délivrance. Donc il va. Alors Moshe Rabbeinu va chez Pharaon et il lui dit, et là il lui dit pas Elohim, il lui dit Hashem Havaya. Et Pharaon lui dit, je ne connais pas ce nom-là. Kadosh Baruch Hu invite Moshe à aller chez Pharaon, et là Pharaon il lui dit, ce Shem-là, il n'existe pas dans mon concept, dans ma conception de Dieu, il n'y a pas ce nom-là n'existe pas. C'est-à-dire, c'est ce qui indique que Pharaon, il maîtrise parfaitement tous les concepts de la nature, toute la matérialité. Il sait, il connaît, il comprend le Shem Elohim dans toutes ses composantes et dans toute sa complexité, dans toutes ses ramifications, ce qui indique la conduite matérielle, maîtriser la matière, dans toutes ses dimensions, dans tous les aspects. Et il voit que le Shem Havaya est inexistant. Il est comme étouffé par le Shem. Donc la spiritualité que Moshe informe, dévoile à Pharaon, elle est inexistante chez Pharaon. Il se sent fort parce que, à cet instant-là, puisque nous sommes dans le galout, nous sommes sous l'oppression, sous la gouvernance de Pharaon, de Mitzrayim, qui est la manifestation de la matérialité absolue et de la puissance totale de la force néfaste, Elohim Aherim, sur Israël. Donc le Shem Havaya, il est inexistant, inopérant pratiquement. Il est, dans les Mkoubalim, on dit que le Shem, le nom de Dieu, est que Dieu est endormi, qu'il est en somnolence. Donc Pharaon se sent fort, donc il envoie Moshe, il lui dit, tu peux dire ce que tu veux, tu n'as aucun pouvoir. Et donc c'est pour cela qu'il dit, que Pharaon dit, qu'on va aggraver la situation. Pourquoi? Il lui a dit, il faut pas que le peuple puisse penser que ce Shem Havaya, il peut se réveiller et prendre le pouvoir sur la conduite du monde. C'est pour ça qu'il lui dit, on va aggraver la situation. Et les bénis Israël doivent faire un choix. Est-ce que la situation s'aggrave signifie qu'on se relâche, ou si la situation s'aggrave signifie qu'on va se renforcer. Dans quoi? Pharaon va renforcer le Elohim qui, poussé à son extrême, devient Elohim Aherim, la force néfaste des forces de nuisance qui s'appliquent sur Israël. Israël voit que sa situation s'aggrave, presque désespérée, comme si que le Shem est Havaya, Baruch Hu, il est endormi, il est enfermé, emprisonné, il ne peut pas s'exprimer. Et là, c'est un moment où on doit choisir son camp, on doit choisir ce qu'on fait. Est-ce que, au moment de l'oppression la plus terrible, est-ce qu'on s'attache au Shem Havaya, donc on renforce notre attachement à ce Shem pour lui donner la force. C'est-à-dire, plus on s'attache au Shem Havaya, plus cette direction va se réveiller, va se lever, va se hisser, va prendre le pouvoir. Ou bien, si on se détache, alors c'est l'autre côté qui prend le pouvoir. Donc c'est pour ça que ça s'aggrave. Et Moshe Rabbeinu dit à Dieu, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, en voyant que le reproche, lui, Moshe Rabbeinu, il s'est dit, je ne veux pas aller délivrer Israël. Pourquoi? Parce qu'il reste encore, je veux être le rédempteur, le sauveur final. Je ne veux pas les sortir de manière temporaire alors qu'ils vont retomber dans les exils, dans les autres exils. Je veux que, et en plus, si on veut, si Akadosh Baruch Hu veut accélérer et réduire l'exil, il faut qu'Am Israël ait un mérite, un gros mérite. Quel mérite ont-ils? Ils n'ont aucun mérite. Donc c'est pour ça que Moshe refuse. Et Akadosh Baruch Hu le force. Et bon, à la fin, il accepte. Alors c'est ça la réponse. Vayashov Moshe l'Adonai. Lui, il ne s'adresse pas à Elohim. Il s'adresse à Shem Havaya. C'est toi qui m'as dit Shem Havaya. Alors moi, je m'adresse à toi. Vayomar. Adonai Lama. Donc le Shem Havaya, il s'écrit Havaya, mais lui, il lui dit Seigneur. Il s'exprime comme le Shem Zezichemi, on ne prononce pas le nom de Dieu Yudkevavke comme il est écrit. Alors, il dit, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Donc, tu as fait du mal à ce peuple, ils souffrent. Ils auraient pu être juste en exil, sans avoir à souffrir trop. Pourquoi m'as-tu envoyé? Et ça s'est aggravé. Tu m'as envoyé, mais en fait, l'exil n'est pas arrivé à son terme. Et depuis que je suis, et j'ai parlé en ton nom à Pharaon, ça s'est aggravé. Et tu n'as en rien sauvé Israël. Et là, quand je vous lui réponds, voyons, mère Hachem El Moshe, il lui répond Hachem El Moshe. Tu vas voir, maintenant, ça va se déclencher. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il y a dans la réponse de Dieu que Dieu donne à Moshe, il y a il insuffle, à Kadjoukou insuffle au Shem, à la direction du Shem Havaya, une énergie nouvelle. C'est ça ce qui a marqué ici. Et là, nouvelle réponse, nouvelle étape. Vaidaber Elohim El Moshe, voyons, mère, et l'avani Hachem. Alors, il lui dit, qu'est-ce qui est le problème? Nous avons dit qu'ils auraient dû rester 430 ans, qui fait ce qui fait 5 fois Elohim. Et il dit, et la parole de Elohim, comme nous avons vu au début, plus haut, il y a 5 fois marqué, ils ont crié vers Dieu, etc. 5 fois Elohim. Alors, il dit ici, il lui dit, voilà comment se déclenche la Géoula. Vaidaber Elohim. Certes, c'est Elohim qui parle. Il parle à qui? À Moshe, il lui répond. Vaidaber Elohim El Moshe. Il parle. C'est l'expression de la rigueur qui est en train de s'appliquer sur Israël. Et Moshe a une question. Comment on va faire pour mettre un terme à ce Elohim-là? Et c'est 4 fois Elohim qui manque. Yomer est là. Il lui dit, Ani Hachem, je suis Hachem. Ça veut dire que c'est de ma propre volonté que le Elohim il se transforme en Havaya. Donc, c'est ce qu'on appelle Mitouk Adinim. Certes, théoriquement, ils auraient dû rester 430. Mais moi, je décrète à présent que ce qui manque, les quatre fois Elohim qui manquent, je les transforme en Havaya. Et Havaya, c'est moi qui détiens le pouvoir de cette transformation de la conduite naturelle qui doit encore s'appliquer sur Israël. Donc, c'est là. Les souffrances, l'oppression, etc., je la transforme en Havaya. Et c'est ça ce qui déclenche immédiatement. Et c'est pour cela qu'immédiatement, il est dit 4 termes. Mais Gamma qui motie de Beriti, juste après, il est marqué La reine est mort, l'Ibné Israël. C'est pour ça que tu diras au Bné Israël Ani Adonai, je suis l'Éternel. C'est-à-dire, je suis celui qui va. C'est cette anaga-là, cette conduite qui va à présent s'appliquer sur Israël. C'est plus Elohim. Donc là, ça va prendre un terme immédiat. Véotseti, il y a marqué les quatre verbes de la délivrance. Véotseti etrem mitahat avodatam. Donc ici, ce sont les 4 verres que nous buvons à Pessah. C'est-à-dire qu'il y a 4 étape de la délivrance, immédiatement. Ce qui signifie qu'en fait, les 4 Elohim qui devaient encore s'appliquer à Israël, de par le fait qu'ils devaient rester 430 ans, moi, je suis Hachem, et ces 4 Elohim, je les transforme en quoi? Je vous sortirai au septième de la servitude. Je vous délivrerai avec un bras fort. Je vous prendrai Vegati Etrem, Velakarti Etrem, donc il y a 4 verbes. Veotseti, Vitzelti, Vegalti. Donc Veotseti, c'est-à-dire que le travail s'arrête. Nitzalti, c'est la sortie d'Égypte, le 14 Nissan. Donc le travail s'arrête Rosh Hashanah de l'année de l'année en question. Végalti Etrem, c'est le passage de la mer. Mais la quartier Etrem, il est c'est Matan Torah. Donc nous avons les quatre étapes. Donc c'est ça le concept même de la délivrance. Le concept de la délivrance, c'est la mise en accélération, l'accélération d'une transformation de conduite, de direction du monde. Elohim, jusqu'à présent, c'était ça qui marchait. Et tout d'un coup, il y a, par la venue de Moshe, par le fait que Israël s'attache, décide de s'attacher à la conduite surnaturelle du Shem Havaya Baruch Hu, que immédiatement, la délivrance va se produire. Et c'est ça les quatre étapes. D'ailleurs, pourquoi Chachamim, il y a ici un secret qui est mentionné dans la Gada de Pessah, pourquoi les Chachamim, ils ont dit sur ces quatre termes-là, Ve'otseti, Ve'itzalti, Ve'galti, Ve'lakarti, on boit quatre vers. C'est les quatre vers du Seder, ils sont marqués par rapport à Arba les Shonot chez le Géoula. Parce que c'est ça le sens. Le Kos, c'est valeur numérique, Arba Kosot. Kos, c'est 86. Le Sod du Kos, on met du vin. Le vin, c'est 70. C'est Sod. Le Sod du Kos, c'est quoi? C'est justement transformer les quatre Elohim qui restent en Havayot. On veut. Le sod de ce kos, c'est de transformer justement tel qu'il est indiqué dans le passou, dans les psukim, de transformer le Elohim en Havaya. Que le Elohim passe, comme si qu'il est transformé, que la conduite de rigueur qui devait encore s'appliquer à Israël se transforme en conduite surnaturelle. Et là, à ce moment-là, le Shem Havaya n'a aucune restriction. Il ne doit rien à personne. Il fait ce que bon lui semble. Zéchemi, le Shemo, chez la Kadosh Baruch Hu, Shemo Zeretsono. Et son raton, c'est de, à présent, de libérer Israël. Donc c'est ça, c'est ici le sod de toute la Géoula, elle est marquée dans ces quelques psukim-là. Mais il faut savoir lire exactement le parcours de cette idée-là. Donc c'est comment ça se déclenche. Au début, ça se déclenche par la tfila. Les cris, les plaintes, les naakatam shamati naakam, les cris. Et après, ça se déclenche quand ça s'aggrave. Pourquoi ça s'aggrave? Parce que quand la touma, elle sent que ça va très mal aller pour, elle va disparaître, elle récupère toutes ses forces, elle essaie de se renforcer, c'est les derniers soubresauts de Pharaon, donc il aggrave la situation. Et c'est justement au moment où ça s'aggrave que nous devons nous renforcer. Comme si on avait été Habakkuk, il dit ça en un mot, tzadik be'emunato yahye. Si on se... Emuna, ça ne veut pas dire croire de manière idiote, c'est un truc qui peut... La emuna, c'est la certitude. C'est la conviction et la certitude de s'attacher avec force, avec intelligence et connaissance intellectuelle certaine, être certain que c'est ça le choix qu'il faut faire. S'attacher à cela... par l'aïmouna, c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est la certitude, c'est pas croire, comme on dit en français, on croit, on sait pas si c'est, on croit. C'est la croyance des naïfs. Non, on est certain que c'est là qu'il faut se renforcer. Être certain que la Géoula, elle peut se produire à cet instant-là. Et c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Vaïdaber Elohim El Moshe. Vaïdaber, c'est dur. Elohim, c'est la rigueur. Il parle à Moshe en réponse. Il lui dit, Ani Hachem, voyons Mère Elav. Il lui parle gentiment. D'un coup, c'est en parallèle. C'est-à-dire que cette rigueur-là, elle devient une bonté totale. Et pour y mériter ça, il faut prier. Il faut susciter par la prière. C'est vouloir la Géoula. Vouloir la Géoula, ça veut dire les palels. Les palels que les Yomarda et les Tsaroten, ou les souffrances et les problèmes, les tourments, le tourment continu de Am Israël dans le Galout, il doit cesser. Alors, pourquoi? Non pas parce que nous souffrons physiquement, parce que la Shekhina, c'est la souffrance de la Shekhina que nous devons avoir devant nous. La souffrance de Am Israël est comparable à la souffrance de la Shekhina. C'est-à-dire que c'est la Shekhina qui est en exil, elle souffre avec nous. Elle souffre de la souffrance d'Ibn Israël. Et si nous avions à cœur de délivrer la Shekhina de sa souffrance, alors on ferait la prière avec beaucoup plus de ferveur, d'intensité, de concentration, d'ambition que d'aspiration à la délivrance. Baruch Adonai Eleolam. Amen ve Amen.